La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis Thierry Rouquet, pasteur de l'église protestante baptiste de Toulouse. Aujourd'hui, je vous propose une méditation basée sur le psaume 129, qui fait partie d'une série qu'on appelle les psaumes des montées. C'est le deuxième psaume de cette série. Lisons ensemble ce psaume 129. Chant des montées. Souvent, ils m'ont attaqué depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise. Souvent, ils m'ont attaqué depuis ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Le Seigneur est juste, il a détaché les cordes des méchants. Qu'ils soient honteux et qu'ils reculent, tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits en terrasse, qui se dessèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'a rempli pas sa main, ni le lieur de gerbes sa poche. Les passants ne disent pas « Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. » Alors dans ces premiers versets, notamment les versets 1 à 3, on voit donc le psalmiste décrire des situations difficiles, voire même dangereuses. Verset 1 « Ils m'ont attaqué depuis ma jeunesse ». Ils m'ont attaqué deux fois, l'expression revient, verset 1 et verset 2. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Effectivement, durant son pèlerinage terrestre, le chrétien peut être confronté à toutes sortes de situations, de difficultés, d'épreuves. Et on ne peut passer sous silence le fait que la vie chrétienne, telle qu'elle est décrite dans les évangiles, demande un certain courage. Jésus n'a pas caché non plus que ses disciples seraient confrontés à des situations compliquées qui leur demanderont de véritables sacrifices. Impossible d'ôter à la vie chrétienne cette dimension du renoncement, du sacrifice et des frustrations qui peuvent aller avec, des déceptions en tout genre, des oppositions, des moqueries. Le théologien luthérien allemand mort en 1945, par les nazis, Dietrich Bonhoeffer a écrit un commentaire sur le sermon sur la montagne qu'on a intitulé « Le prix de la grâce » où dans ce commentaire, eh bien, il parle de cette grâce à bon marché où certains protestants de l'époque considéraient la grâce comme un trésor dans lequel ils pouvaient puiser comme bon leur semblait. La grâce à bon marché. Eh bien non. Le Christ n'a pas enseigné une grâce à bon marché. Il suffit de lire le sermon sur la montagne pour s'en rendre compte. À moins de brader la vie chrétienne et de considérer l'évangile comme une recette magique du bonheur ici-bas, rien dans l'enseignement de Jésus ne laisse entendre que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Dans un des rares passages autobiographiques de sa vie, l'apôtre Paul raconte les épreuves qu'il endura lors de ses voyages missionnaires. « Serviteur du Christ, j'ai été en prison, on m'a frappé, j'ai été en danger de mort, dit-il. Cinq fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. Trois fois, les Romains m'ont frappé durement. Une fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. Trois fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Une fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai connu beaucoup de dangers, dans les villes, dans le désert, sur la mer. » J'ai souvent manqué de sommeil, de nourriture, j'ai eu froid, j'ai manqué de vêtements. Le psalmiste ne s'y trompe pas. Au verset 1, « Souvent, ils m'ont attaqué. Des laboureurs ont labouré mon dos. » Verset 3, « Ils y ont tracé de longs sillons. » À bien regarder la vie de chrétien dans certaines régions du monde où la persécution sévit encore aujourd'hui, cette parole du psalmiste est d'une actualité troublante. Jésus avait averti ses disciples Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, je vous ai dit cela pour que vous n'abandonniez pas la foi. On vous exclura, et même l'heure vient où ceux qui vous tueront s'imagineront rendre un culte à Dieu de cette façon. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai annoncé cela pour que lorsque cette heure sera venue, vous vous rappeliez que je vous en avais parlé. L'Église de Jésus-Christ a toujours mené des combats et parfois, il faut le dire, essuyé des revers terribles. La persécution a même été annoncée par Jésus, on vient de le voir, à ses premiers disciples. Mais tout au long de son histoire, l'Église a su aussi résister, persévérer. Cette résistance, elle la doit non pas à sa propre vertu, mais à la grâce de Dieu. Comme l'affirme le psalmiste au verset 4, « Le Seigneur est juste. » Le Seigneur est juste. Dans son livre « Histoire ecclésiastique », Théodore de Bèze, mort en 1605, affirme « Le Seigneur a voulu montrer que jamais son Église ne triomphe mieux que sous la croix. » Il faut comprendre en comptant sur la grâce de Dieu et en s'identifiant à celui qui lui a donné la force et la capacité de résister aux pires épreuves. Qu'Israël le dise, oui, comme le dit le psalmiste, « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. » Autrement dit, le dos du peuple d'Israël est comparé à un sol sur lequel on a fait passer un soc de charrue plusieurs fois pour y creuser un profond sillon. Quel acharnement! Quelle grande souffrance! Ce dos labouré n'est-il pas celui du Christ avant sa mise en croix? Dans l'évangile de Jean, nous voyons au chapitre 19, Pilate ordonnait que Jésus soit fouetté. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 50, verset 6, a annoncé cela. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Mais la délivrance s'approche, car le texte du prophète Ésaïe se poursuit au verset 7 par ces paroles. « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Je n'ai pas été déshonoré. » Et plus loin, Ésaïe va jusqu'à dire que c'est à cause de nos crimes qu'il a été blessé, ce serviteur souffrant. C'est à cause de nos fautes qu'il a été accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, le prophète nous dit que nous avons la guérison. Alors, dans notre psaume, au verset 4 et au verset 8, le psalmiste poursuit « Le Seigneur est juste. Il a détaché les cordes des méchants. Qu'il soit comme l'herbe des toits en terrasse qui se dessèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'a rempli pas sa main, ni le lieur de gerbe sa poche. » Le Seigneur est juste. Il a détaché les cordes des méchants. Dieu délivre Israël en coupant les cordes qui relient les bœufs à la charrue. N'oublions pas que l'image précédente nous parlait d'un soc qui labourait le dos du peuple d'Israël. Et là, le psalmiste nous dit que le Seigneur détache les cordes des méchants. Autrement dit, l'instrument du supplice des justes, ce soc qui passe sur le dos du peuple d'Israël, ce soc, cette charrue ne peut plus fonctionner puisque justement les cordes qui reliaient le soc à ceux qui conduisaient cette charrue ont été détachées. Détachées par qui? Par le Seigneur. Les méchants peuvent toujours continuer à hurler sur les bêtes. Pour qu'elles avancent, la charrue restera désormais à sa place car le Seigneur a détaché les cordes. Dieu a déjoué, autrement dit, les plans des méchants. Il les a rendus inopérants. Les méchants sont dans la totale incapacité à semer le trouble parmi le peuple de Dieu. L'œuvre des méchants ne peut plus porter aucun fruit durable. Au verset 6, le psalmiste les compare à cette herbe qui pousse sur les toits en terrasse. Cette herbe est très vite calcinée par la chaleur car elle n'a aucun enracinement et le vent chaud la dessèche rapidement. Cette image devait parler aux contemporains du psalmiste car au Moyen-Orient, les maisons ont bien sûr ces terrasses et l'herbe pouvait y pousser. Mais bien sûr, sur un toit et sous un soleil si ardent, cette herbe ne pouvait que se dessécher. Du coup, les méchants qui pensaient faire des affaires juteuses en se moquant de Dieu auront un salaire de misère. Versets 7 et 8. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur de gerbe sa poche. Ces images liées à la vie agricole de l'époque décrivent en fait la vanité des projets humains. Quand Dieu n'est pas invoqué pour être au centre de nos projets, alors l'homme, le méchant en question dans ce psaume, prend des chemins d'illusion, se repaît de joie passagère, de satisfaction immédiate, mais sans lendemain, et qui ne répondent pas aux besoins profonds de l'âme humaine. Comme cette herbe qui se dessèche avant qu'on l'arrache, et qui ne suffit même pas pour faire une gerbe, ainsi est l'avenir de ces projets, tout aussi futiles et inutiles. Cette gerbe si minuscule, à peine tient-elle dans une main. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur de gerbe sa poche. Au verset 4, le psalmiste affirme sans détour, « Le Seigneur est juste ». Autrement dit, Dieu est fidèle. Dieu est fiable. Tu peux compter sur lui. Si tu ressens encore la douleur des profonds sillons creusés dans ton dos, sache que le Seigneur garde une relation protectrice avec toi, car il est fidèle. Il est fidèle. Affirmation sans détour qui décrit la nature de ce Dieu fidèle sur qui l'on peut s'appuyer. Ailleurs, Dieu est comparé à un roc, un rocher. Tu viens de vivre une épreuve, tu passes par des souffrances. Sache, comme le dit le psalmiste, que le Seigneur est juste. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Peut-être te poses-tu des questions auxquelles tu n'as toujours pas reçu de réponse. Prends courage, prends courage. Le Seigneur tient ses promesses, le Seigneur est juste. Peut-être que tu te dis, oui, le Seigneur est juste, mais les hommes. Tu as raison. Nous avons effectivement tous été une fois ou l'autre victimes d'injustice, de moquerie, de trahison. Il n'y a rien de plus décevant que de découvrir qu'un proche, un ami, à qui nous avions accordé notre confiance, nous a trahis. Et cela nous ramène au repas de la Pâque, où Jésus affirme que celui qui est avec lui, citant là aussi un texte de l'Ancien Testament, eh bien celui-là même qui mange le pain avec lui va le trahir. Nous vivons d'autant plus difficilement une infidélité, une trahison, que la relation qui nous lie à la personne était forte, profonde et aimante, sans calcul ou arrière-pensée. Plus cette relation était enrichissante pour l'un et l'autre, plus la déchirure est insupportable et parfois si difficile à pardonner. Un ami, un père, une mère, un conjoint, un enfant, un frère, une sœur, un chrétien, un homme d'église qui nous a trahis. Quelle injustice! Mais ce que nous ne devons pas croire, c'est que notre Dieu s'amuserait avec nous de la même façon. Dieu est juste, le Seigneur est juste, comme le dit le psalmiste. Ne devenons pas cyniques envers Dieu. Ne nourrissons pas de l'amertume ou de la rancœur à son encontre, et même envers les autres. Nous devons comprendre que notre persévérance dans la foi, notre attachement à l'œuvre de Dieu, notre fidélité au Seigneur et à l'amour de notre prochain dépend avant tout de sa fidélité et non pas de notre fidélité ou de celle des autres. Dieu est juste, il est fidèle. Oui, notre amour, notre foi, notre fidélité, notre persévérance dans la marche chrétienne dépend avant tout de sa fidélité. Ce qui peut donner une stabilité à notre vie, c'est notre attachement à ce Dieu juste tel que nous le décrit le psalmiste. Nos émotions font le yo-yo, elles nous jouent bien souvent des tours, mais Dieu est juste. Il ne peut pas ni ne veut nous tromper. Notre volonté est bien souvent prise en défaut, mais Dieu est juste. Il ne peut nous tromper. Notre courage est parfois pris en délit de fuite, mais Dieu est juste. Il ne peut nous tromper. Notre endurance au sein des épreuves est peut-être bien faible, mais Dieu est juste. Il ne peut nous tromper. Notre fidélité au Seigneur n'est peut-être pas à la hauteur de la sienne, mais pour cette raison même, il nous dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Eugene Peterson, pasteur presbytérien canadien qui est mort il y a peu de temps, a écrit un commentaire sur les psaumes qui s'intitule « Méditation sur les psaumes des montées ». Et il dit à ce titre, pour le chrétien, la réalité centrale de l'existence se trouve dans cet engagement personnel, inaltérable et persévérant que Dieu assume à notre égard, engagement que lui a pris à notre égard, alliance qu'il a faite avec nous. La persévérance ne peut pas être le fruit de notre détermination, mais elle sera le résultat de la fidélité divine à notre égard. Est-ce ce que nous appelons aujourd'hui la résilience, un mot très à la mode? Non. La confiance en la fidélité de Dieu et à sa justice, c'est-à-dire celle que Dieu nous a acquise par son Fils, par le Christ, cette confiance en la fidélité de Dieu, eh bien, transcende le processus psychologique de la résilience. Si nous pouvons survivre dans la foi dans ce monde dur, angoissé et angoissant, ce n'est pas en raison de nos propres capacités, de notre volonté de faire, d'ailleurs, même le faire se tord. Si nous pouvons survivre, c'est parce que le Seigneur est juste et qu'il a détaché les cordes des méchants. Il l'a fait à la croix, où il a vaincu la mort, le péché. Comme le dit le psalmiste, souvent ils m'ont attaqué depuis ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Le Seigneur, verset 4, est juste, il a détaché les cordes des méchants. Il a détaché les cordes des méchants. Comment Dieu a-t-il manifesté sa justice envers nous? Comment a-t-il détaché ses cordes? Comment a-t-il fait pour nous délivrer de l'opprobre en envoyant son Fils, le seul homme qui lui soit resté fidèle jusqu'au bout? Lui seul peut faire valoir auprès du Père sa fidélité, sa fiabilité, son obéissance. Lui seul peut intercéder auprès du Père pour que nous restions fidèles à ses commandements. Jésus vit pour toujours et sa fonction d'intercesseur est perpétuelle. C'est pourquoi il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu. Oui, Jésus est toujours vivant, il est ressuscité. Lui, le fidèle, il intercède pour nous auprès du Père. Il peut donc toujours, toujours porter notre cause auprès de Dieu en notre faveur. Alors gardons les yeux fixés sur Jésus, comme nous le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Gardons les yeux fixés sur Jésus, lui qui par sa mort et sa résurrection a détaché les cordes qui nous reliaient à cette servitude. Celui par qui notre foi a commencé, Jésus, et qui l'amène à sa perfection, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. C'est ainsi que Dieu est juste. C'est ainsi qu'il détache les cordes des méchants. En son Fils, toujours vivant à sa droite, il nous assure de sa présence constante et fidèle. Oui, le Seigneur est juste. Il a détaché les cordes des méchants.
C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre, l'ennemi contre nous redouble de courroux. Vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Des cieux, tes